Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Processus de désignation des membres de la CENI, un délai de 48 heures est accordé aux confessions religieuses qui n'ont pas pu dégager un consensus pour vider la question. C'est une décision contenue dans un communiqué signé par le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale hier mercredi et qui précise que ce délai expire ce vendredi 30 juillet 2021. Pour sa part, le Front commun pour le Congo FCC en sigle n'a pas encore déposé la liste de ses candidats. Cette plateforme dit attendre que les confessions religieuses choisissent un candidat président de la CENI de manière consensuelle et qu'il soit apolitique. Quelle lecture faire du débat autour de la désignation des futurs membres de la CENI? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons dans ce débat Maître Ferdinand Kamere, il est secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo FCC en sigle. Bonsoir Maître Ferdinand Kamere.
Bonsoir Guy Maté.
Augustin Mulumba, député national et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes aussi membre de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale, PAJ en sigle. Bonsoir honorable Augustin Mulumba.
Bonsoir à tous les élèves de la radio Capitale.
Et Dieudonné Mirimo, expert électoral, il est secrétaire général de l'école de formation électorale en Afrique centrale FEAC, l'unique centre d'excellence de la CEAC. Il est aussi ancien rapporteur de la commission électorale indépendante CI en sigle. Bonsoir Monsieur Dieudonné Mirimo.
Bonsoir Mathé.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Je le disais au sommaire, un processus de désignation des membres de la CENI, un délai de 48 heures est accordé aux confessions religieuses qui n'ont pas pu dégager un consensus pour vider la question. C'est une décision contenue dans un communiqué signé par les directeurs de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Yann Mekedi, et qui précise que ce délai expire ce vendredi 30 juillet 2021. Et à ce sujet, les confessions religieuses sollicitent l'arbitrage du président de l'Assemblée nationale, l'évêque général, les représentants légaux de l'Église des réveils du Congo, Israël Dodo Kamba, accompagné des représentants des autres confessions religieuses, a été reçu hier mercredi par Christophe Mboso Kodia Pwanga. À la sortie de l'audience, Israël Dodo Kamba a invité les catholiques et les protestants à revenir à la table des négociations afin de procéder à la désignation du prochain président de la centrale électorale. Israël Dodo Kamba est au micro de Michel Kifindangoy.
On peut ne pas se mettre ensemble pour cette raison, mais pour le reste des choses, on est ensemble et on restera ensemble. Désigner n'est pas forcément passer par le mot de consensus, qui est la voie par laquelle il faudrait passer, mais il faudrait que cela puisse être complété par l'autre partie qui suit, qui parle du vote. Donc, jusque-là, c'est comme ça que je dis, nous sommes ensemble, nous restons dans le règle de notre charte, que j'appelle moi la lettre de convention. Et je vous ai dit hier, et je reviens sur ça, et pour vous rappeler ici, il ne faut pas dire que nous n'avons pas trouvé la solution. Nous avons trouvé la solution, nous avons travaillé. Et déjà, en ce qui nous concerne, nous avons vidé cette question, ces questions que les autres se rejoignent à nous, on puisse travailler ensemble comme il a été question, parce que nous avons presque vidé la matière, les sujets à l'ordre du jour, donc ces questions de compléter les restes ensemble avec les autres. On ne recule pas, on a déjà terminé cette question, mais on est en train de regarder sur une direction qui nous permettra de nous mettre ensemble pour le reste du chemin à faire.
De son côté, le Front commun pour le Congo FCC n'a pas encore déposé la liste de ses candidats. Cette plateforme dit attendre que les confessions religieuses choisissent un candidat président de la CENI de manière consensuelle et qu'il soit apolitique. Maître Ferdinand Kamere, je rappelle que vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo FCC en sigle. Et quelle lecture vous faites de ces débats dans lesquels vous, de FCC, vous venez de vous impliquer?
L'invitation de ce soir. D'entrée de jeu, je crois que tout le monde a lu la lettre du coordonnateur de la cellule de crise du FCC qui est claire en ces termes. Ça signifie simplement ce qu'on attend de tous les vœux, et que de cette composante que les confessions religieuses, nous attendons un consensus qui est plus de division, comme je commence à le voir, que les uns fassent une déclaration d'une part et que les autres ne sont pas d'accord. Ce théâtre-là, on l'a vécu pour les Kamaloda, on ne voudrait pas que ces cas reviennent. J'ai l'impression qu'il y a un texte que les uns veulent contourner, tout simplement pour des intérêts égoïstes, alors que déjà devait être là-bas pour simplement l'intérêt de la République. Vous le savez, c'est le poste le plus important, c'est le poste qui, lorsqu'il sera désigné, s'il n'y a pas de divergence entre les confessions religieuses, ça peut assurer un tant soit peu que, bien que nous ayons décrié la manière dont la Cour constitutionnelle a été mise à plat, les violations répétitives de la Constitution, on pourrait peut-être se dire, s'il y a attente et qu'elles sont assurées, qui parlent des mêmes sons de cloche, peut-être pour les autres, peuvent dire, nous irons en améliorant le processus, parce que le processus devra garantir les élections transparentes pour l'avenir de notre pays.
Alors, pourquoi le FCC conditionne le dépôt de sa liste, la liste de ses candidats par la désignation consensuelle du candidat président de la CENI par les confessions religieuses? N'est-ce pas là une interférence des politiques dans les débats qui ne concernent que les confessions religieuses?
Non, parce qu'il y a un cas de jurisprudence, c'est le cas Malonda. Vous le savez bien que lorsque ce cas s'était présenté, il était question que, un, d'abord, que je crois la confession religieuse catholique et FCC, ils avaient opposé aux autres le fait que les pouvoirs, ceux qui ont le mandat de transmettre les PV de désignation de celui qui doit être président, c'est l'Église catholique et la vice-présidente qui est assumée par FCC. La lecture que moi je me donne en tant que politique est que au choix de ces modus operandi pour avoir un président qui va succéder à Nanga, ça a toujours été le consensus. Voilà pourquoi, parce que nous ne voulons pas que demain, il y ait un groupe d'églises de confession religieuse qui se présente avec un rapport pour dire nous sommes majoritaires, alors que ce n'est pas le mode qui est peut-être dans la charte de 6 mai. L'autre aspect est qu'on avait dit que lorsqu'on entérine, on doit entériner pour tous les postes en même temps. Alors, nous, en tant que composante opposition, nous ne pouvons pas être le premier à présenter des noms si déjà au sommet, on ne sait pas trouver un terrain d'attente. Ça serait insensé parce que ce qu'on attend est que les noms soient présentés en même temps. Et que donc, tant qu'il y a divergence, je ne vois pas pourquoi il faut demander aux autres d'amener déjà les noms.
Et comment vous expliquez cette radicalisation des positions des uns et des autres, hein? Les églises catholiques et protestantes tiennent à ce qu'un consensus soit trouvé autour du candidat président de la CENI, tandis que les autres confessions religieuses, donc les 6 autres, estiment qu'elles ont déjà fait leur choix. Et vous venez de suivre même le président des églises des réveils, M. Kamba, le pasteur Kamba, et qui affirme que la question est déjà vidée.
Oui, mais quand vous suivez aussi, c'est ce qui a demandé aux autres, à ses copères, de ne pas briller de triomphalisme. On ne peut pas, lorsqu'on est entré à la recherche d'un consensus, commencer à dire « nous, on a déjà fait notre choix ». Encore, c'est lui-même qui est en train d'être accusé, disait des trafics d'influence pour imposer aux autres son choix. Et dit, si tel ne passe pas, donc pour nous, il n'y a rien d'autre qui peut être suivi. Je crois que ça, c'est quand même malheureux dans un processus comme celui-ci où on est en train de désigner quelqu'un qui va donner de l'assurance à tout le monde de son indépendance. Parce que moi, tel que j'ai dit en tant que politique, l'effort était de reconnaître qu'avec leurs accords, s'il est réellement reconnu que leur texte eux-mêmes demande à ce que celui qui transmet ce soit par la signature de l'Église catholique et le vice-président, ça signifie qu'ils ont reconnu à ces deux confessions religieuses un certain poids politique qui leur reconnaît un droit de veto, tout simplement. Et que donc il ne suffit pas de dire « moi j'ai une voix, j'ai voté ». Et la solution est trouvée. Nous, on attend la solution consensuelle. Et cela, ce n'est pas leur texte à eux-mêmes les influences des partis politiques, comme on est en train d'attendre la pression, et même ont dénoncé les menaces, la pression des politiques pour la désignation de celui qui va représenter les confessions religieuses, je crois que ce n'est pas un bon signe tant que nous savons qu'hier, et l'Église catholique et protestante avec l'IDPS, ils ont marché contre Malonda pour les mêmes motifs. Pourquoi ramener les gens dans ça alors qu'hier, ils agissaient autrement? Ça ne serait pas responsable. Je crois qu'ils doivent reconnaître que les autres ont ce droit de veto et que par usage, le droit de veto n'est pas que congolais, même au Conseil de sécurité, ça existe, où il y a des États qui ont les droits de veto par rapport aux autres. Par exemple, au Conseil de sécurité, on parlera des États-Unis, de la France, ainsi de suite. Alors, il faut reconnaître que ceux-là sont là-bas et qu'il faut plutôt agir plus par consensus que par triomphalisme.
Alors, qu'est-ce qui explique...
Pas une vote majoritaire.
Oui, Maître Président, qu'est-ce qui explique cette fixation sur la fonction du président de la CENI? A-t-il beaucoup de pouvoir au point d'imposer sa logique à l'ensemble des membres de la CENI, donc les bureaux ainsi que l'Assemblée plénière?
Je pense que les uns et les autres sont en train de rechercher dans ce processus ce que la personne qui sera désignée, il ne ressorte pas directement qui provient d'un tel cas politique. Il est plutôt important que tous les Congolais sachent que celui qui a été désigné, il n'y a pas eu de pression de tel cas contre un autre cas, que c'était vraiment l'émanation des confessions religieuses, et que la personne a été librement choisie et qui peut assurer les uns et les autres pour l'indépendance de la CENI. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il aura plus de pouvoir que les autres, mais au moins sa tête à la CENI devra assurer que le processus sera transparent et que donc lorsque nous allons aux élections, la contestation sera peut-être moindre.
Merci Augustin Mounoumba, député national et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes aussi membre de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Êtes-vous surpris par ces débats ou c'était prévisible?
Merci beaucoup, monsieur, pour votre invitation d'abord. Je suis surpris comme le peuple congolais est surpris. Le peuple congolais attendait impatiemment le peuple de l'Église. Ils choisissent d'une manière unanime celui qui devait remplacer Corneille Nangaa. Le PV devait être transmis au bureau de l'Assemblée nationale. Celui-ci, à son tour, devrait le transmettre à la commission paritaire opposition majorité. Celui-ci passera au temps fin le dossier du candidat président de la CENI et bien éventuellement des autres membres avant de soumettre le rapport à la plénière pour entériner ou rejeter. Mais ce qui est fort étonnant, jusque tard le soir, le consensus n'a pas été trouvé. Mais si vous lisez bien la charte de régie, les confessions dites religieuses, il est très clairement indiqué que le mode de désignation, c'est le consensus. À défaut de consensus, on organise le vote pour départager les candidats. Je pense que c'est ce qu'ont fait les autres six autres églises qui composent les confessions religieuses. Donc, ici, il est question de deux confessions religieuses, SSC et la CEDCO, qui ne se sont pas retrouvées, par exemple, dans le choix du candidat présenté, leur candidat, parce que vous n'êtes pas sans avoir. Et chaque confession avait son candidat dans sa poche. Donc, nous ne pouvons pas attendre que les deux confessions, les deux par huit, qui se mettent à bloquer la machine. Les 48 heures ont été données par l'Assemblée nationale. On ne sait pas par quel mode vont-ils encore se mettre autour d'une table pour discuter de la même question. C'est ce qu'on ne sait pas. Vont-ils encore s'appeler pour se retrouver quelque part? Je crois que les derniers mots reviendraient à l'Assemblée nationale. Après que les confessions religieuses peut-être ne s'entendent pas.
Certains observateurs parlent des tentatives d'instrumentalisation ou d'influence de votre camp politique, M. Augustin Mounoumba, dans les choix des confessions religieuses. Que répondez-vous à ces allégations?
Il n'est nullement question d'une tentative de pression. Notre parti n'est pas intéressé au choix des candidats provenant des confessions religieuses. Ils sont libres de se choisir leur candidat. Le problème, c'est que chaque confession a son candidat. Leur mode opératoire, leur mode, c'est le consensus. Faut de consensus, ils doivent organiser le vote pour se départager. Mais ils sont en train de se diverser, chacun avec son candidat. Mais les six autres confessions religieuses se sont mises ensemble pour se choisir un candidat. Je crois qu'ils doivent s'entendre. Un délai leur a été accordé pour qu'ils s'entendent. Je crois que 48 heures, ça va expirer de demain. Le parti de PES, l'Union Sacrée, n'est pas intéressé au choix. Parce que dans la loi électorale, nous avons le partage de 5 pour l'opposition, 6, donc chacun a ce qui le concerne. Ici, il n'est pas question, c'est entre eux qui, chacun avec ses intérêts, vous n'êtes pas sans savoir que les confessions religieuses aussi sont devenues hautement politiques. Donc, ils subissent aussi de part et d'autre les pressions des camps qu'ils soutiennent. Mais pour nous, à l'IDPS ou à l'Union Sacrée, il n'y a pas de pression contre une confession religieuse. Il n'y a pas de pression contre un camp. Nous sommes libres et nous les laissons libres de se choisir les candidats qu'ils se cherchent eux-mêmes.
On a suivi la position des confessions religieuses qui cherchent un consensus autour du candidat président de la CENI. On a suivi la position de la MUCA qui prône des réformes au sujet, n'est-ce pas, du texte régissant la CENI. On a suivi la position du FCC qui conditionne le dépôt de sa liste par un consensus autour du candidat président. Mais jusque-là, l'Union Sacrée reste silencieuse. Pourquoi vous gardez le silence? Est-ce que vous avez déjà déposé votre liste, M. Augustin Mulumba?
Je pense que la liste a été déjà déposée. Nous ne sommes pas en train de faire, de subir des influences ou des pressions. Nous sommes libres, nous avons travaillé avec les gens de sur la loi électorale. La loi étant déjà promulguée, je ne sais pas comment on peut encore y revenir. Le cadre légal pour traiter les lois, c'est au Parlement. Les gens de la MUCA, dont vous faites allusion, devraient venir proposer ou améliorer ce qui a été proposé par Ngolek Lutundula. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à un autre état. Le sacré, je ne sais pas, je ne suis pas le porte-parole, je crois qu'ils ont déjà déposé. Nous attendons que les confessions religieuses s'entendent sur un candidat. À défaut, ils doivent passer, comme l'indique leur charte, au vote pour se départager.
Alors, comment pensez-vous assurer l'indépendance du futur bureau de la CENI lorsque dans la loi que vous avez examinée et adoptée au Parlement, vous avez prévu, n'est-ce pas, la mise en place d'une commission paritaire opposition-majorité et qui aura comme mission de valider les propositions des différentes composantes et donc vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de rejeter les candidats qui vous seront proposés par la société civile comme les autres composantes politiques. Vous pensez que cela peut vraiment garantir l'indépendance de la CENI?
Je crois que ce qui sera comme priorité d'abord, c'est le dépôt des PV et la commission aura comme mission de vérification des dossiers, les profils tels que la loi l'a prévu, les profils, les compétences. Quand vous lisez bien l'article 12 de cette loi, les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes. La commission peut-elle aussi se poser la question, est-ce que la personne présentée est-elle indépendante? Elle se réunit pour désigner les membres de la CENI conformément à l'article 10. Donc vous allez voir que, telle que la commission va travailler, elle va travailler conformément à la loi. Elle ne peut pas réciser parce que telle est venue, mais c'est la conformité à la loi, la conformité à la constitution et les critères de désignation prônés par la loi organisant la CENI.
Voilà, cette insistance sur la fonction du président de la CENI ne peut pas s'expliquer par le fait que la loi que vous avez adoptée au Parlement accorde, n'est-ce pas, au président de la CENI les pleins pouvoirs, hein, parce que dans la pratique, c'est le président qui dirige à la fois les bureaux de la CENI et sa plénière. Et on sait qu'il n'existe aucune commission de suivi de la gestion du bureau. Est-ce que cette insistance, cette fixation au sujet de la fonction, n'est-ce pas, du président de la CENI, n'est pas liée au pouvoir excessif que vous, parlementaires, vous avez accordé au futur président de cette CENI?
Non, mais il faut d'abord lire la loi. Les compétences sont d'attribution. On a attribué les compétences selon la charge qu'a une personne qui est désignée dans le bureau de la CENI. Il y a le président, il y a le premier vice-président, il y a le deuxième vice-président, il y a les rapporteurs. Les compétences sont d'attribution. Il n'a pas de pouvoir excessif, comme vous venez de le dire.
Merci beaucoup. Dieudonné Mirimo, vous êtes expert électoral, vous êtes secrétaire général de l'école de formation électorale en Afrique centrale, FEAC en sigle, l'unique centre d'excellence de la CEAC. Vous êtes aussi ancien rapporteur de la commission électorale indépendante CEI en sigle. Quelle lecture vous faites du débat autour de la désignation des futurs membres de la CENI?
Merci de m'avoir invité à cette émission. je voudrais de prime abord dire que la République démocratique du Congo va organiser son troisième cycle électoral maintenant. On a déjà dépassé quelques mois. Et la loi portant organisation et fonctionnement de la commission électorale a été adoptée par les deux chambres du Parlement et promulguée le 3 juillet 2021. Nous avons suivi également un calendrier qui a été publié par le bureau de l'Assemblée nationale demandant aux différentes composantes, c'est-à-dire la majorité, l'opposition et la société civile, de pouvoir désigner ses délégués. Et nous avons donc suivi le débat qui est animé autour de la désignation du président. Je voudrais ici relever quand même cette avancée dans la loi où, cette fois-ci, on a précisé que ce sont les confessions religieuses qui désignent le président de la CENI. C'est une grande amélioration par rapport aux lois organiques passées. Et donc, ce débat devrait s'animer parce que, comme vous le savez, c'est la CENI qui a la mission d'organiser, de gérer et de contrôler le processus électoral dans notre pays. Et pour cela, nous savons que les confessions religieuses sont régies par une charte, et dans leur charte, certainement que c'est précisé comment ils doivent désigner leurs délégués, et cette fois-ci, ils en ont deux, un au bureau et un autre à la plénière. Non seulement ils ont le mode de désignation, par consensus ou par vote, mais également, s'ils doivent transmettre le PV de désignation au bureau de l'Assemblée nationale. Je crois que toutes ces questions-là doivent être clair parce que c'est dans la charte et je crois que le législateur lui-même doit se conformer aux lois et aux règlements pour nous permettre d'avancer. Mais je voudrais aussi indiquer que le pays ici a besoin quand même de la paix, de la stabilité, et les parties prenantes devraient harmoniser s'il y a des incompréhensions, des différends qu'ils doivent baliser afin de pouvoir nous permettre d'aller dans des élections apaisées, parce que nous avons connu plusieurs situations assez difficiles les années passées. Nous pensons qu'au troisième cycle électoral, nous devrions tirer les leçons du passé pour nous permettre quand même d'avoir des élections apaisées, et donc le moment des élections devrait être un moment de fête et non planifier les contestations au moment même où nous sommes en train de mettre en place l'équipe qui doit gérer les élections pour le prochain cycle.
Voilà, vous dites que les partis doivent harmoniser leurs divergences. Et vous ne pensez pas que tous les débats auxquels on assiste aujourd'hui au sujet de la désignation des futurs membres de la CENI et la conséquence logique du manque des consensus lors de l'examen et de l'adoption au Parlement de la loi sur la CENI?
Oui, même si nous le disons aujourd'hui, on ne peut plus rentrer en arrière parce qu'il y a eu beaucoup de débats, mais la loi a été votée, elle a même été déjà promulguée, et donc on n'en peut rien. Nous venons de perdre 2 ans pour la mise en place de la nouvelle CENI, et donc si nous tenons à avoir les élections en 2023, je crois qu'il est grand temps qu'on puisse mettre en place la nouvelle équipe pour qu'elle se mette au travail afin de pouvoir préparer ces élections que le peuple congolais certainement attend de tous ses.
Vous êtes ancien rapporteur plutôt de la CEI, et comment vous pouvez expliquer cette fixation sur la fonction du président de la CENI?
Bon, la fixation est simple parce que de toutes les façons, le président, c'est celui qui représente l'institution vis-à-vis des tiers. Ensuite, ses attributions sont bien déclinées dans la loi organique, mais aussi, comme l'a dit, je crois, l'un des invités à cette émission, il préside et le bureau et la plénière, donc c'est lui qui conduit les débats. Donc il a quand même un rôle très important, c'est pour cela qu'il y a ces débats autour de sa désignation, parce que c'est quand même une personnalité importante dans ce processus.
Le président de la CENI est seul membre de la société civile dans les bureaux. Il est entouré de 6 délégués des partis politiques. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'hypocrisie de la part des politiques qui donnent l'impression d'accorder de l'importance au président alors qu'en réalité, ce sont eux qui les contrôlent et l'influencent? Est-ce que cela ne peut pas expliquer le fait que les catholiques insistent sur une personnalité capable de faire face à cette influence probable, n'est-ce pas, des politiques sur son travail?
pense que le plus important, c'est, devait être l'application de l'article 12 qui détermine les conditions, les qualités que doivent avoir les membres de cette CENI, en commençant par son président, notamment l'indépendance, la compétence, l'intégrité, et j'ajoute même la moralité. Et donc, si le président qui doit conduire cette institution remplit ses conditions, je pense qu'il devra jouer son rôle, quelles que soient les influences qu'il peut subir des autres membres venant des partis politiques. C'est lui, en fait, qui doit mettre tout le monde d'accord, parce que la CENI ne sait qu'appliquer les lois qui viennent du Parlement.
Vous avez évolué dans une commission électorale. Et comment faisiez-vous pour gérer toutes les pressions de la classe politique, hein? Parce qu'il faut reconnaître que les pressions ne manquent pas. Comment vous avez fait à l'époque pour gérer toutes ces pressions, toutes ces influences de la part des hommes politiques?
Je pense que le vrai problème que nous avons dans notre pays, ce n'est pas un problème de texte. Si vous lisez toutes les lois qui ont été promulguées sur l'organisation de la CENI, bon, on a tant modifié. Mais à mon avis, en tout cas à mon humble avis, le vrai problème, c'est un problème d'hommes. Si nous avons des hommes intègres qui ont de l'éthique pour gérer les élections, il y a effectivement lieu de pouvoir donner au peuple congolais des élections qui seront paisibles, transparentes et apaisées, que tout le monde cherche de tout son vœu. Donc, pour répondre à votre question, c'est la personnalité des membres de cette commission qui doit primer. Si on envoie des partisans à la commission, naturellement, ils vont subir ces influences et nous allons faire les lits de contestation avant même que les élections ne soient organisées.
Merci. Nous allons maintenant passer au point de vue des auditeurs qui sont en train d'appeler pour contribuer à ces débats. Maître Ferdinand Kambere, vous allez réagir à cette réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis Kinshasa.
Ansango Ilukunku, depuis Kinshasa, le retardement du processus électoral. L'homme politique et religieux doit s'assumer et accepter les conséquences dans l'organisation des élections. Comment pouvez-vous obliger les élections en 2023? Tant que vous allongez, seront-ils complices du glissement ou pas? Merci.
Oui, Maître Ferdinand Kambere, vous avez suivi l'auditeur qui vient de nous appeler de Kinshasa. Et c'est comme s'il a suivi ce que M. Mirimo a dit. Il a aussi dit que si on veut avoir des élections en 2023, c'est maintenant qu'il faut travailler.
Oui, je remercie l'auditeur Massangou de son observation. Parce que vous saviez, le cas Malonda, c'est une jurisprudence à suivre qui devrait nous éviter. C'est que je vois un camp qui est en train de se vanter qu'il a déjà voté, donc il faut aller loin. Mais on l'a fait avec Malonda, ce n'était pas passé. On l'a fait avec Malonda. Pourquoi utiliser la même méthode qui a échoué et qui nous a fait retarder jusque-là? Et ne pas trouver un compromis à l'interne en considération des uns et des autres par rapport à leur texte, à la charte qui les régit. C'est ce que nous disons. La population, elle, ne devait même plus attendre ce débat ici si les confessions religieuses s'étaient attendues. Mais vouloir utiliser ça comme faiblesse pour dire nous faisons un blocage pour que nous passions au vote parce qu'il y a 3, 4, 5, 6 qui seront d'accord. Je ne sais pas influencé par quoi, ainsi de suite, et que et donc les autres seront contraints de suivre ce que nous disons, oubliant que la troisième phase dans ce processus de désignation du président de la CENI, c'est quand même la transmission du PV de désignation, et qui est fait, ce PV-là, par l'Église catholique et l'ECC. Ça veut dire que c'était demander aux gens de tenir compte des autres, et pas un triomphalisme, parce que c'est un triomphalisme inutile qui nous fait entrer dans une crise politique de plus. Et je ne vois pas dans l'intérêt de qui, parce qu'au moins le pouvoir qui est là, il devait être le premier à nous prouver qu'ils n'ont aucun agenda caché derrière la désignation du président, qui vont se soumettre à ce processus-là que nous voulons tous transparent, apaisé, pour que le prochain président, si ça sera celui qui est là, qui va être ramené par la population, si ça sera un autre, mais que ce soit par un processus apaisé, transparent, et indépendants. C'est ce que nous voulons. Mais ici, on voit bien les gens qui sont derrière un calcul de vote, qui font blocage au consensus, et laissant passer les temps pour que... Parce que j'ai l'impression que même quand vous suivez les députés de l'IDPS, ils ont tendance à vouloir utiliser cet ultimatum de 48 heures pour dire non, au niveau de l'Assemblée nationale, ils peuvent valider ou non. Non. J'ai même suivi d'autres qui vous disent la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Je dis c'est faux. La CENI doit être indépendante, elle n'a pas de tutelle. Le pouvoir qu'a l'Assemblée nationale, c'est juste entériné et l'Assemblée nationale n'a pas à revoir. S'ils ont fait des choses de cette façon-là, alors ils ont tout faussé parce que je pense qu'on a touché alors à ce moment-là à l'indépendance de la CENI et nous ne sommes en train que de rentrer dans un cercle vicieux. La CENI doit rester indépendante et que l'Assemblée nationale n'a que le pouvoir d'entériner et ne peut pas revoir les candidatures qui sont revenues de la CENI, sauf si on parle d'une concertation entre candidatures, peut-être pour voir la représentativité nationale, mais dire qu'on peut modifier au niveau de l'Assemblée et que la CENI devient maintenant une émanation de l'Assemblée nationale, nous disons non, parce que sinon finalement, on va dire aussi que c'est l'émanation du président qui va signer l'ordonnance. Je pense qu'on doit éviter ces calculs-là, et si c'est les calculs du président de l'Assemblée, c'est un calcul dangereux qui risque de replonger notre pays dans une crise inutile de plus.
Augustin Moulumba, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler de Bukavu au sud Kivu.
C'est Patrice Moudero depuis Bukavu dans la province du sud Kivu. À mon avis, je pense que ces divergences autour de la désignation du nouveau président de la CENI montrent combien de fois cette CENI ne sera pas indépendante, impartial et apolitique, mais plutôt ces divergences laissent croire au peuple congolais que chaque conception religieuse ferait un cas politique qu'elle soutiendrait, car sachant bien les textes et calendriers qui les régissent quant à la formation des nouveaux animateurs de la CENI, ces divergences ne devraient pas donc exister. Sinon, une fraude électorale serait déjà prévisible au regard de toutes ces mésententes où les unes se disent avoir raison, que rejetteraient les autres concessions religieuses.
Monsieur Augustin Moulumba.
Oui, merci pour cet auditeur. Les tâtonnements que montrent les églises font croire aux gens qu'aujourd'hui, chacun a son agenda caché. Parce que vous savez, quand la loi a confié la désignation du président de la CENI aux concessions, à la société civile, le bar des déjà religieux, c'est pour chercher la neutralité. Ils ne sont pas des opérateurs politiques. Mais ce qui montre aujourd'hui que ces gens ont des agendas cachés, c'est le manque de consensus sur les candidats. Vous avez vu comment les 6 se sont retirés, les 2 sont restés. Donc, ça montre réellement que les concessions religieuses sont certes dépolitisées parce qu'à leur fin, il y a des politiques, il y a des gens qui font la politique sans le savoir. Nous voudrions bien que ces concessions, les pères religieux, nous donnent un candidat maître et l'organisation des élections crédibles, transparentes, apaisées. C'est ça le fait de notre regroupement politique. Nous ne voulons pas l'interférence. Quelques individus que ce soit, les politiciens, qui vont maintenant ajouter des concessions religieuses au choix d'un candidat qui nous ont déjà mis dans la poche. Donc voilà un peu ce qui est comme ambiche à ce qui se passe.
Que répondez-vous à ceux qui disent qu'on est en train de cautionner aujourd'hui ce qu'on a rejeté hier lors de la désignation de Maître Malonda?
Non. Très clairement, il faut le dire, si les gens n'ont pas compris. Je crois que le rejet du président de la République, c'était la suite logique de ce qui s'est passé au Parlement. Nous sommes parlementaires, je crois que pour que chaque question soit traitée à l'Assemblée plénière, il faut que cette question déjà figure à l'ordre du jour. Mais la tricherie qu'avait commise notre ancienne présidente Mabunda, c'était qu'à la fin de la plénière, il soumet maintenant le PV alors que les députés sont partis. Nous avons rejeté à la plénière en bloc que cette question n'était pas à l'ordre du jour. Après le départ, il s'était déjà organisé avec les réseaux, les médias en ligne. Nous avons des gens qui étaient Malonda et l'ancien président de la Commission électorale indépendante. Donc c'est très différent avec ce qui se passe. Les PV ont été réunis au bureau. Les quelques PV n'ont pas fait l'objet d'une commission mixte comme le prévoit la loi. Et le sujet à l'ordre du jour n'a pas été fixé dans la plénière. C'est jusqu'à la fin de la plénière qu'une tréchure a été organisée
pour maintenant entériner par force le nom de Malonda.
Monsieur Djedine Mirimo, vous allez aussi réagir à la réflexion de cet auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi dans les Haut-Katanga.
Trésor Bopé Pakouyi, je vous appelle depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Katanga. Les mêmes faits produisent les mêmes conséquences, dit-on. Ici, nous avons en face de nous ce que l'on avait dénoncé lors du premier processus qui avait failli conduire M. Ronsard Malonda à la présidence de cette institution d'appui à la démocratie. Et la suite des événements, nous connaissons. Le chef de l'État doit se servir de l'affaire Ronsard Malonda pour épargner les pays du chaos et surtout éviter à la CENI d'être victime d'illégitimité dans les jours à venir pour certains membres des confessions religieuses. Sinon, nous risquerons de faire du surplace. Que les chefs de l'État sachent encore que le peuple attend voir sa réaction quant à cette situation afin de mieux les situer.
Dieudonné Mirimo.
Oui, j'ai bien noté l'intervention de M. Trésor à partir de Lubumbashi. Effectivement, je l'ai dit dans mon intervention qu'au troisième cycle des élections que nous organisons, nous devons toujours avoir un regard d'où nous venons en tirant bien les leçons. Et donc, nous devrions avoir à l'esprit d'où nous venons et où nous voulons aller. Et j'ai dit aussi que nous devons aller vers des élections apaisées et non préparer les lits de contestation. Et c'est très important. Or, tout part de cette étape de désignation des animateurs de la CENI, l'équipe qui est chargée d'organiser et de gérer le processus. La loi est déjà là, en tout cas. Bon, il n'y a rien à dire sur la loi parce qu'elle est même déjà promulguée, donc on ne peut même pas y réfugier. Mais je pense que nous invitons la sagesse de tous les acteurs de pouvoir chacun mettre de l'eau dans son vin en appliquant les textes qui existent et nous permettre donc de pouvoir avancer. On a besoin d'un président, effectivement, qui peut-être mettra tout le monde d'accord. N'oubliez pas que le président, c'est celui qui annonce les résultats provisoires. Donc, si déjà il y a des suspicions autour du président, vous voyez déjà que c'est mal parti pour avoir des élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes.
Oui, nous allons commencer avec la conclusion parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Maître Ferdinand Cambéré, et si le statu quo est maintenu, si les choses ne changent pas, si les confessions religieuses n'arrivent pas, n'est-ce pas, à trouver un consensus autour d'un candidat, que ferait à ce moment-là le FCC?
Certainement, il va donner sa position, mais en tant qu'analyste, le FCC devra certainement dénoncer cette manipulation de certaines confessions religieuses pour nous replonger dans une crise qui avait été évitée avec les cas Malonda. Parce que si tout le monde veut qu'aujourd'hui on avance, il faut qu'on avance. S'il y a un souci pour dire que ce processus soit crédible, transparent et apaisé, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il n'y ait aucun soupçon, que ce soit les gens qui seront désignés ne soient exempts de tout soupçon d'acquaintance avec un cas politique. Mais quand on lit le triomphalisme d'un cas ou de certains groupes ou confessions religieuses contre un autre, parce que considérant que ce choix-là doit être un choix majoritaire, un vote majoritaire, alors que la charte n'a pas parler de ce choix-là, c'est plus le consensus qui doit être privilégié, mais même quand on passe par les votes, on doit savoir que les veto est exercé par ces deux grands des membres de CIM et ces droits de veto, c'est partout que c'est exercé. Je pense que d'ailleurs, ça c'est en train d'expliquer, ça c'est maintenant une recommandation à ce qui me concerne, que plus tard il faudra que nos confessions religieuses finalement participent par rapport à leur poids réel, socio-économique dans la vie des citoyens, parce que les églises comme catholiques et protestantes, il y en a d'autres qui n'ont la vie que dans une seule ville ici ou dans une commune, qui comme ça risquent d'induire tout un pays dans une crise inutile, sa appréciation. Donc, vraiment, je pense qu'au niveau de ce texte de la charte, peut-être que plus tard, il faudra réellement que chaque confession religieuse ne vienne que par les réels poids politiques et vale autant de voix à mettre dans les paniers selon qu'il représente ceci dans la vie socio-économique de notre pays. Et que, donc, tout ce que nous voulons, que les partis politiques se mettent de côté, chacun a quand même un poste. L'indépendance de la CENI, les principes qui le président, ça a toujours été le principe de mixité tripartite. Ça dit que la société civile par les confessions religieuses désigne un président, alors il ne faut pas qu'il y ait influence ou trafic ou menace. L'opposition, la majorité a son poste. L'opposition à son poste, c'est quand même déjà au moins une nouveauté par rapport à la loi passée, où dans l'espace présidentiel de la CENI, les trois composantes participent dans cet espace-là. Vouloir maintenant tricher par des petites voies, passer par des confessions religieuses pour être manipulé, ça serait dommage pour notre pays, alors comme l'a dit Dieudonné. Je crois qu'au troisième cycle, nous devrions tirer plus de leçons de tout ce que nous avons connu pendant l'organisation des élections pendant tout ce temps.
Augustin Moulumba, que proposez-vous comme solution adéquate pour améliorer ces processus de désignation des futurs membres du bureau de la CENI?
Nous invitons justement les deux autres confessions à se joindre au CIS et nous trouver un candidat réellement indépendant. Les confessions doivent nous prouver qu'ils sont réellement impartiales. Donc le préjugé est déjà enclenché. Nous devons aller aux élections, les peuples attendent les élections en 2023. Donc ils peuvent se mettre ensemble et trouver le moyen de se choisir un candidat comme le prévoit la loi. Je crois que dans leur texte qui est la charte, à défaut d'un consensus, ils peuvent recourir au vote. C'est moyen. En démocratie, le principe sacro, c'est la loi de la majorité. Donc ils doivent se mettre ensemble pour que demain ou le lendemain, qu'on ait un candidat réellement indépendant. Il doit maintenant rassurer tout le monde. C'est ça le vouloir de tout le monde. Nous ne voulons pas les pressions des uns des autres. Les gens qui certaines confessions sont déjà dans les ambassades, ils ont déjà leurs candidats dans la poche. Non. Nous voudrions que celui qui doit remplacer Corneille Nanga doit être celui qui doit rassurer tout le monde pour l'organisation crédible, transparente des élections qui ne peuvent pas même plus couler le sang du peuple congolais.
Dieudonné Mirimo, qu'est-ce que vous recommandez pour que les choses s'effacent de manière à satisfaire toutes les composantes?
Je prends le mot que vient de prononcer l'honorable qui est intervenu juste avant moi.
Augustin Moulumba.
Augustin Moulumba, oui, je m'excuse, honorable. Le président de la CENI doit rassurer tout le monde. Je crois que c'est de ça que tout le monde a besoin. Et pour cela, j'espère, je souhaite que les confessions religieuses vont rentrer autour de la table pour qu'un consensus soit trouvé et nous désigner effectivement un président qui va rassurer tout le monde et permettre que les élections, les prochaines élections qui se préparent, soient organisées et se tiennent dans la paix, parce que nous en avons besoin.
Merci à Maître Ferdinand Kambere, Augustin Moulumba et Dieudonné Mirimo d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Willem Lungamba qui était à la technique, à Kéline Kouté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.